Le oui a besoin du débat pour gagner.
Mais le seul truc qui t'intéresse, c'est toi, toi et toi. Tu sais qui, ta carrière, ton poste ministère, la con.
Nous sommes une démocratie, c'est le peuple qui va décider.
Attendez, c'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
Be you, be proud of you, because you can be.
Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris.
Do what we want.
Garantie sans candidat, mais avec des invités qui ont des idées.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent. Allez, donnez les noms.
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
La culture a donc l'air d'être la grande absente du débat présidentiel et législatif à venir, mais pourquoi en parle-t-on si peu? Parce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? L'exception culturelle, cette spécialité française que le monde nous envie, aurait-elle définitivement sauvé les créations et les créateurs? Ou bien alors, le système en place est-il à bout de souffle? Merci Jean-Luc. Qu'on colmatant tant bien que mal des fuites tous azimuts, dissimulant de plus en plus mal un abandon au marché de la création. Et si maintenant on s'intéresse au public, qu'en est-il de la pratique amateur? Faire de tous les citoyens des artistes en herbe ne devrait-il pas être l'ambition d'une politique culturelle digne de ce nom, plutôt que de laisser chacun consommer, seul dans son coin ou en groupe, des productions, des géants du cinéma, de la musique ou du jeu vidéo? Ce sont toutes ces questions et bien d'autres encore dont nous allons parler, d'autant qu'arrive à vitesse grand V maintenant le numérique, avec l'apparition de nouveaux intermédiaires comme Amazon ou Netflix, mais aussi des possibilités d'auto-édition, d'auto-production ou d'auto-publication. Pour parler ce soir en une heure de tous ces sujets, trois invités que je remercie d'ores et déjà d'être venus. Autour de la table, donc Francine Lajournade Bosque, qui est fondatrice et gérante de Didascalia, une société d'ingénierie culturelle. L'ai-je bien dit?
Oui, c'est parfait.
Merci. Mieko Campo, vous êtes danseuse, chorégraphe. Vous avez fondé la compagnie K622 en résidence actuellement au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.
Ah, pas du tout, non. Je suis artiste associée au manège scène nationale de Reims.
Ça arrive parfois. Et enfin, Jean-Marc Adolphe, on va voir ça. Là, on va voir si mes fiches sont bonnes. Il est journaliste, créateur de projets artistiques et pas Astérix. Il a fondé la revue Mouvement et vous venez de publier notamment parmi vos nombreuses activités Nuit debout et culture assoupie aux éditions de l'Entretemps.
20 sur 20.
Parfait.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Non, je n'ai pas le monopole du cœur et c'est pour ça que je donne tout de suite la parole à Nino.
Bonsoir, bonsoir à tous les trois invités, merci d'être là. Pour rentrer dans le vif du sujet, on pourrait peut-être d'abord parler de votre livre un peu, Jean-Marc Adolphe, donc Nuit debout et culture assoupie aux éditions de l'Entretemps. Dans votre livre, vous constatez une des idées majeures, j'ai l'impression, c'est vous constatez un manque de rapprochement entre Nuit debout et les milieux de la culture, les établissements culturels, les artistes. Pourquoi est-ce que vous estimez que ce rapprochement était nécessaire?
Bon, il y a plein de raisons. Je veux dire qu'au départ, ce n'était pas forcément très raisonné. J'ai moi-même éprouvé un enthousiasme spontané, je dirais, lorsque a démarré Nuit debout. Enthousiasme, étymologiquement, c'est un mot qui vient du corps. J'étais surpris de voir que beaucoup d'artistes un peu en vue, que de responsables des actions culturelles ne manifestaient pas la moindre empathie ni même le moindre intérêt pour ce mouvement, le mouvement citoyen.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu qu'ils ne sont pas venus à Nuit debout, qu'ils n'ont pas créé de commission à Nuit debout
Si, non, il y a eu des artistes, il y a eu Orchestre debout, il y a eu des Poésies debout, il y a eu des artistes qui ont été présents, et pas uniquement à Paris, mais je veux dire que les personnalités les plus en vue, celles qui sont promptes à s'engager, à nous donner parfois des leçons de morale quant au respect du service public, etc., ont surtout brillé par leur absence. Et ce qui m'a fait le point de départ, c'est la lecture de l'éditorial d'Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, pour la dernière édition du festival.
Vous parlez souvent de lui dans votre livre.
Oui, parce que, j'ai rien contre Olivier Py en personne, mais je veux dire, c'est à la fonction qu'il occupe de directeur du Festival d'Avignon, c'est une place évidemment importante, symbolique, et son éditorial est, comme beaucoup des éditoriaux de directeurs ou directrices de théâtre, de centres d'art, semble parfaitement engagé, très politique. Puis tout d'un coup, en le lisant, je dis, mais il y a comme une fausse note dans une partition, il y a une phrase qui vient tout gâcher. C'est lorsqu'il écrit, lorsque la révolution est impossible, il reste le théâtre. Et là, alors, quand la révolution est possible, que fait le théâtre. Donc ce livre, c'est, voilà, c'est un questionnement de comment se positionne la culture, le champ culturel, par rapport à un moment d'effervescence politique où, de toute évidence, il se passe quelque chose.
Francine Nier, cette désertion des artistes par rapport aux politiques, c'est quelque chose que vous observez l'une ou l'autre dans votre domaine ?
Moi, oui, complètement, oui. Je sais que ça ne se fait pas de le dire, mais...
Profitez-en, allez-y.
C'est quelque chose, moi je suis toujours assez surprise de voir des artistes. Alors je vais parler de l'endroit où je me trouve, où il y a peut-être un grand écart, parfois un petit peu compliqué, entre la place Igor Stravinsky et le milieu rural, où je peux travailler avec des associations qui sont souvent invisibles, qui ont un vrai engagement politique de terrain, vrai et silencieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à la ramener, mais ils font un vrai boulot. Avec très peu de moyens, que ce soit humain ou matériel. Et d'un autre côté, des postures que je peux voir chez certains artistes, qu'ils soient interprètes ou créateurs, qu'ils soient compositeurs ou autres, qui ne prendront jamais position sur le terrain politique. Là, on est, à mon avis, dans un printemps qui est très, très... où il y a une... beaucoup de risques politiquement et je trouve qu'il y a une place des artistes à prendre qui ne prennent absolument pas. Personne ne s'engage parce qu'on a un peu l'impression
que... Mais pourquoi ils ont peur ? Ils
oui,
ont plus rien
on a l'impression
à dire.
Qu'il y a une peur, ils n'ont pas rien à dire parce que quand on écoute la musique, quand on voit ce qui se passe au théâtre, je connais moins le cinéma mais et l'engagement politique des cinéastes, mais dans la littérature aussi il y a beaucoup de choses qui se disent mais sur le terrain, on ne les voit pas, on les voit peu. Moi, je ne les vois pas ça, vraiment prendre position politiquement.
Mieko Campo.
Alors moi, je n'ai pas tout à fait senti ça. J'ai senti au contraire beaucoup d'intérêt pour le mouvement.
À Reims, donc.
Non, sur Paris. Enfin, c'est compliqué, mais...
Bon, j'abandonne.
Oui, non, mais c'est parce qu'on est semi-nomade. Alors, pour revenir sur Anguin, effectivement, qui est un théâtre conventionné numérique. Non, mais parce qu'on va parler du numérique aussi, c'est ça.
Ouais.
Du coup, effectivement, j'y étais, mais il y a quelques années. Et donc, voilà, actuellement, ma compagnie est basée à Paris, mais nous sommes artistes associés à Reims. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Non, moi, j'ai plutôt senti que les artistes étaient très sensibles au mouvement, qu'ils se sont beaucoup interrogés, qu'il y a... Voilà, ils n'ont peut-être pas forcément participé aussi parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu sur place, mais moi j'ai senti que c'était aussi beaucoup un espace de communication et pas forcément un espace de création ou de représentation. Voilà, l'enjeu de la communication, si on travaille trop sur l'image, les slogans, les trucs, les choses comme ça, on a l'impression que ça amoindrit, que ça perd de la profondeur sur la réflexion. Et j'ai l'impression que ce mouvement-là, il va apparaître dans les créations à venir, ce qu'il en ressort, hein, ou les questions qu'il a posées, ou les tensions qu'il a mises en place, ça va ressortir dans les créations qui vont apparaître là, cette saison.
Je voudrais juste préciser que...
Alors Francine, pardon.
Donc Francine ne parlait pas uniquement de Nuit Debout, mais je parlais vraiment d'un contexte global et sociétal sur la prise de position.
Jean-Marc Cazot, tout à l'heure, on parlait de Nuit Debout. Vous disiez donc que les artistes n'y avaient pas suffisamment participé, selon vous. S'ils étaient venus et si les artistes s'engageaient plus en politique, quel message ils devraient porter pour vous ? C'est quoi le message que le monde de l'art, le monde de la culture pourrait apporter à la politique aujourd'hui ?
D'abord, je voudrais mettre un tout petit bémol à ce que vient de dire Francine, quitte à me contredire moi-même un petit peu. C'est-à-dire que il y a quand même dans beaucoup d'équipements culturels des artistes qui s'engagent au quotidien. Je dirais, il y a énormément d'actions, ce qu'on appelle d'actions culturelles auprès de publics, les plus divers, parfois éloignés, comme on dit, de l'offre culturelle. C'est dans la danse notamment, c'est quelque chose qui se fait énormément, aussi un peu dans le théâtre. Ce sont des actions invisibles. C'est une sorte de politique du quotidien qui est extrêmement importante, parfois ingrate. Donc tout ce travail-là, il existe et il faut pas le nier ou le minorer. En revanche, il y a sans doute un manque de de traduction d'une parole politique plus conséquente, qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que j'avais fait auparavant, en 2003, un livre qui s'appelait « Crise de la représentation ». Bon, je pense qu'il y a une certaine désaffection vis-à-vis de la politique telle qu'elle est instituée, telle qu'elle est représentée, telle qu'elle est incarnée aujourd'hui par un système de partis politiques qui, à mon avis, est arrivé à son terme. Donc, mais précisément, il me semble qu'avec « Nuit debout », se jouait une tentative d'imaginer un autre rapport aux politiques. Et là, il me semble que précisément, les artistes, les responsables d'institutions culturelles auraient dû s'engager beaucoup plus nettement. S'engager, ça ne veut pas dire mettre des banderoles partout en disant on est. Voilà, mais au moins se questionner, participer, se rendre disponible pour participer à ce que disait Milleko Campos, c'est-à-dire un espace de communication, de rencontre, d'échange. Parce que moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et je pense que voilà, les idées nouvelles, elles vont naître, ça va prendre du temps, mais elles vont grandir peu à peu de ces moments de confrontation, et de discussion, voire de dispute.
D'accord. Et Milleko Campos et Francine, alors vous pensez que dans les autres lieux aujourd'hui, où donc on fait de la. Dans les établissements culturels, tous les endroits où il y a des événements culturels aujourd'hui, ça offre pas la possibilité d'avoir cet espace de discussion dont parle Jean-Marc, de conflit qui peut avoir du coup une dimension politique. Les théâtres, les cinémas aujourd'hui, ça permet pas.
Si, on en parle, mais disons que les endroits où on en parle le plus librement, enfin, en tout cas dans mon secteur, c'est peut-être par exemple avec la coordination des intermittents. Là, pendant Nuit debout, en fait, il y a eu des AG, des réunions assez souvent. Et donc, on était plusieurs à y assister. Bon, ça ne veut pas dire que forcément on va prendre la parole et qu'on va créer des choses, mais on s'est tenu au courant. Et puis après, on parlait effectivement aussi au directeur de théâtre ou même aux relations publiques, enfin, des gens qui font de la médiation, pour essayer de faire évoluer les choses.
Mais ça, j'imagine, c'est entre
autrement.
Entre,
mais c'est très compliqué parce que tout le secteur est subventionné par l'État, quoi. Donc il y a un côté aussi un peu dangereux, c'est-à-dire, enfin, je comprends que certains artistes aient peur de prendre la parole, parce que c'est comme, ce serait presque comme une sorte de mutinerie.
Vous voulez dire que le responsable de l'institution ne peut pas être contre l'institution finalement ? C'est assez logique, quoi.
Il faut toujours questionner l'institution, essayer de faire évoluer des choses, hein, par rapport à l'évolution de la société, mais pas que artistique, hein, social, enfin, économique, dans tous les sens. Mais voilà, il y a cette tension-là qui existe forcément.
Moi, je pense que la fonction. Pardon.
Oui. Enfin, moi, je voudrais revenir sur deux, trois choses, bon, puisqu'on a reparlé de Nuit debout. Déjà, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de prise de position sur le terrain. Bien au contraire. De l'action culturelle, évidemment, il y en a, puisqu'aujourd'hui, les subventions sont conditionnées à ce qu'il y ait de l'action culturelle. Parfois, elle est forcée. Non, c'est complètement ça. Parfois, elle est forcée, parfois, elle est complètement admise, voulue, par des artistes de terrain qui... Tu travailles à Reims, c'est une ville que je connais très bien, il y a un terreau culturel très riche. Il y a eu beaucoup de souffrances, dans certains cas, au changement de municipalité, beaucoup d'ajustements qui ont été faits, qui se sont faits. Mais dire qu'il n'y a rien... Enfin, il y a quelque chose sur le terrain, ça c'est sûr. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que justement, comme tu disais Jean-Marc tout à l'heure, les artistes qui auraient une tribune et qui pourraient dire des choses et qui sont effectivement dépendants de financement public se taisent, peut-être aussi parce qu'ils ont ces subventionnements publics. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener vraiment sur le statut de l'artiste là-dedans et sur sa liberté. Voilà.
Maybe I'm alone, but I know I'm never coming back here. There's only one way, future politics. I'm never coming back here.
look ahead and I think about it. There's still a hole somebody needs to heal.
Un titre de la playlist de Radio Campus Paris qui s'imposait pour ce débat, Ostra et son futur politique. Moi, j'avoue que si la politique du futur se danse, je veux bien être président.
Win the yes, need the no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Again the no.
Et voilà, again the no, Clémence qui est venue nous voir pour nous parler grandeur et décadence de la région Île-de-France en 2017. C'est à toi Clémence.
Oui, en effet, grandeur et décadence de la région Île-de-France. Grandeur d'abord, parce que lorsque fin 2015, la région Île-de-France est passée à droite, la nouvelle directrice Valérie Pécresse avait de grands projets pour elle, à commencer par une augmentation du budget alloué à la culture. Elle souhaitait notamment, je cite, « mettre au cœur de son action l'irrigation territoriale, le soutien à la création, l'éducation artistique et culturelle et la valorisation du patrimoine ». Tout à fait logique puisque l'objectif est de développer un territoire. Jusqu'ici, tout va bien. Qui plus est, le programme culturel de la droite, quand il y en a un, est souvent orienté vers le patrimoine. Et mettre en valeur le patrimoine, c'est justement ce que s'attache, ou plutôt s'attachait à faire le Festival d'Île-de-France depuis 40 ans.
Le Festival d'Île-de-France, c'était donc un dispositif de la région.
Plus ou moins. En fait, c'est une initiative de la région et il est porté par la région à environ 80%, ce qui est bien sûr énorme. Un peu trop d'ailleurs pour Madame Pécresse.
C'est donc là que commence la décadence ?
Tout à fait. Là où le bas blesse, c'est que la région a décidé fin novembre 2016 de baisser drastiquement sa subvention au festival, plus précisément de 68%. Sachant que le budget total était d'environ 2 millions d'euros, financé à 80% par la région, cette diminution de la subvention correspondait à 1 million d'euros de moins pour le festival. Dans ce cadre budgétaire, impossible de mettre en place l'édition suivante. Le conseil d'administration a donc décidé de cesser l'activité.
Et comment la région justifie tout ça ?
Alors la région a invoqué un argument juridique. En raison de la trop grande implication de la région, le festival aurait pu être requalifié en association transparente, autrement dit un écran derrière lequel se cacherait une collectivité territoriale, ici la région. L'idée était donc d'inciter les autres collectivités à être dans le cofinancement et donc à faire baisser la part de la région dans le budget total. Si l'argument est recevable, les moyens n'en sont pas moins abrupts. Et cette brusque décision n'a pas laissé au festival d'autre choix que de s'arrêter là. En quelques chiffres, le Festival d'Île-de-France, c'était depuis 40 ans, une trentaine de concerts chaque automne, avec 8 permanents à l'année, jusque 120 intermittents et vacataires pendant la période du festival, et pour la dernière édition, 500 artistes accueillis, 19 500 spectateurs, 87% de remplissage, plus de 100 actions culturelles fédérant 4000 participants, plus de 1600 partenaires sur tout le territoire, et surtout 30 lieux du patrimoine investis, tels que l'abbaye de Maubuisson ou le château de Villarceau, dont la moitié en grande couronne. Donc patrimoine, irrigation, éducation, création, on avait dit ça. Hein. Donc jusqu'ici, on remplit tous les critères. D'autant que l'autre particularité de ce festival à permettre en valeur ces lieux historiques, parfois oubliés de l'Île-de-France, c'était de mélanger avec brio dans leur programmation musique du monde, musique classique et jazz. Il y en avait pour tous les publics, pour tous les goûts, et l'accès aux concerts était facilité par la centaine d'actions culturelles déployées sur le territoire. Il faut croire que le métissage n'est pas du goût de tout le monde.
Et en janvier, il y a donc eu autre chose de ce genre, c'est ça?
Oui, cette fois, c'est l'Ariam Île-de-France qui est passé à la trappe. L'ARIAM, c'est l'Association Régionale d'Information et d'Action Musicale. Méconnue du grand public, mais bien connue par les praticiens de musique et de danse, elle avait deux activités principales. Une soixantaine de formations professionnelles ponctuées de nombreuses rencontres interprofessionnelles et un parc instrumental conséquent qui louait à bas prix des instruments aux musiciens. L'ARIAM était un organisme associé de la région avec également un budget autour des 2 millions. Là, ça s'est passé plus en douceur, mais le message n'en était pas moins clair. 1 135 000 euros de subventions en 2015, puis en 2016, 750 000. La directrice Bernadette Grégoire dénonce un manque de dialogue entre l'État et la région, l'ARIAM étant également soutenue par la DRAC, l'organe déconcentré de l'État dans les régions. Le reste du budget était constitué de ressources propres correspondant aux locations et aux droits des formations.
Autrement dit, en coupant les subventions, on a supprimé cet organisme.
Alors, sous cette forme-là, oui. Concrètement, les actions de formation, elles vont être déléguées au conservatoire et le parc instrumental, il va être géré directement par la région en interne. La région souligne alors sa volonté d'internaliser les activités plutôt que de passer par des structures tierces. Après l'ARIAM et le festival, c'est le MOTIF, Observatoire du Livre en Île-de-France, voire même Arcadie, gigantesque dispositif de soutien à la création, qui serait fragilisé. Néanmoins, Agnès Evren, vice-présidente chargée de l'éducation et de la culture, rappelle que le budget de la culture de la région est en augmentation de 4% en 2017 et affirme sa volonté de donner certes moins d'argent aux frais de structure, mais plus aux acteurs culturels, afin de leur donner les moyens de lancer leurs propres initiatives. Le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, ne serait pas en danger, ni le Chœur Victoria, ni l'Orchestre National d'Île-de-France, dont le budget augmente cette année. Pourquoi certaines structures et pas d'autres? Mystère. En tout cas, espérons que la tête de la région ne perde pas de vue ses promesses en matière de culture et d'éducation, et surtout que l'hécatombe s'arrête là.
J'ai un cœur, comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Donc là, on a quand même surtout parlé d'énormes structures semi-publiques, voire presque complètement publiques, vu la hauteur des subventions de la région. Parlons aussi des associations dont on parlait juste avant, et puis des plus petits acteurs culturels. Qu'en est-il ? Est-ce qu'au niveau des subventions publiques, est-ce que ça a changé ? Où en est-on ?
Il faudrait dresser un inventaire, parce que là, effectivement, c'est les structures les plus visibles, les plus importantes, les plus peut-être emblématiques d'une politique régionale, mais il y a énormément de petites et moyennes structures régionales. Je vais prendre un seul exemple, au Lila, l'espace Chiasma, qui mène une politique absolument remarquable, tant sur le plan des résidences d'artistes que sur tout un travail fait en Seine-Saint-Denis. Je crois que ça a été, du jour au lendemain, moins 50% de subventions de la région sur l'exercice 2016 qui était déjà engagé. Donc c'est en plus mettre le couteau sous la gorge à des structures par rapport à des programmes qui sont déjà engagés. Donc c'est criminel. Bon, comme quoi il y a quand même une petite différence, quoi qu'on en dise, entre la droite et la gauche. La petite différence, elle se situe à l'endroit où ils mettent la virgule dans la suite de chiffres, quoi. Voilà, donc effectivement, c'est y a un slogan des intermittents en 2003 que j'aimais bien qui était « La culture coûte cher, essayez donc l'ignorance ». Voilà, on peut pas... mais bon, ce que je dis là pourrait valoir aussi pour une partie de la gauche hein, qui a diminué, réduit le périmètre de certaines... Alors, on ne peut pas tenir à la fois, à droite comme à gauche, un discours qui va consister à dire, pour garantir la cohésion sociale, pour les banlieues, etc., la culture c'est extrêmement important, c'est un ciment, c'est... et en même temps, ratiboiser les subventions de toutes les, les lieux, les associations petites ou moyennes qui œuvrent précisément sur le terrain à cet endroit-là. Là, il y a une hypocrisie politique énorme.
Pour rester sur cette question du financement, donc, on l'a dit au début, Francine Lajournal-Bosque, vous, vous travaillez à Didascalia, qui est une société d'ingénierie culturelle. Mm-hmm. Et si je ne me trompe pas, vous accompagnez des associations culturelles pour donc les aider à mettre en place un modèle économique, c'est ça ?
Oui.
Et du coup, vous avez peut-être accès à des informations sur leur financement.
Alors, j'ai accès à aucune information top secrète, je vous rassure.
Oui, non, mais il faut peut-être me renseigner là-dessus.
Sauf sur les structures que j'accompagne, mais ça, je ne vous les donnerai pas. J'interviens sur un dispositif qui est encore assez méconnu des associations qui s'appelle le DLA, dispositif local d'accompagnement, pour lequel je vais faire un tout petit peu de pub parce que c'est un dispositif génial.
Expliquez-nous ce que c'est.
C'est un dispositif qui est au service des associations. Une chose très importante, c'est que les associations sont demandeuses. C'est-à-dire que, par exemple, un conseil régional qui financerait une association et qui viendrait voir le DLA et dirait « Je veux que vous accompagniez cette association pour savoir ce qu'elle fait », on lui dirait non. Donc c'est vraiment l'association qui est demandeuse d'un accompagnement sur un aspect de sa vie qui peut être son projet associatif, donc son développement, sa vie associative, son modèle économique, puisqu'on parle aussi de modèle économique pour les associations comme pour toute structure. Et cet accompagnement donc, est mené par un expert, entre guillemets, dont je fais partie, choisi par l'association sur plusieurs propositions. Il faut souligner que c'est entièrement gratuit pour les associations. Parfois, il y a selon les régions, il peut y avoir une toute petite participation qui est symbolique.
D'accord.
Mais dans l'ensemble, c'est gratuit. Et voilà, c'est une ingénierie qui où il n'y a pas de regard de l'État et des financeurs. Il y a un paiement des financeurs publics, mais pas de regard.
Et donc, c'est uniquement des financeurs publics ?
Alors, c'est uniquement des financeurs publics. Ça, d'accord. Je pense que c'est très important. C'est uniquement des financeurs publics et c'est important que ça le reste.
Mais parce que c'est une question qu'on soulève souvent, ça, la part du public. Et puis, sinon, il y a les associations qui peuvent recevoir de l'argent leurs
bien
activités
sûr,
elles-mêmes.
Bien sûr,
et puis après, il y a le mécénat aussi.
Alors, il y a le mécénat aussi, mais on voit bien les limites aussi du mécénat. Moi, je suis très, très attachée au financement public. D'autant que depuis quelques années en France, depuis 3 ans exactement, on a enfin une définition juridique de la subvention, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui ne voulait pas dire que les subventions étaient illégales, contrairement à ce qu'on dit beaucoup de politiques sur le terrain. La subvention était légale, mais aujourd'hui elle a une définition politique. Donc ils n'ont plus aucun souci à se faire, ils peuvent donner des subventions sans avoir de soucis là-dessus. Donc moi je suis très attachée à ça, et on a eu un exemple très net, là en cette fin d'année, ça a été à Paris, la Maison Rouge, où on a un mécène que tout le monde a porté au nu pendant des années, qui est quelqu'un de très bien, un collectionneur qui a créé un lieu culturel d'art contemporain, qui a été beaucoup mis en avant, à juste titre, puisqu'il avait une programmation de qualité, qui du jour au lendemain décide que non, il va faire autre chose. Il arrête. Et alors tout le monde dit « Oh là là, Antoine de Galbert arrête, oh là, c'est un drame ». Non, c'est pas un drame. C'est juste qu'on s'est trompé. C'était pas un musée qu'il avait ouvert. Le Louvre n'a aucun risque de fermer. Beaubourg ne fermera jamais. Vous pourrez toujours aller à Beaubourg. Et il y aura toujours des collections qui seront conservées. La Maison Rouge, c'est pas le cas.
Voilà.
La Fondation Vuitton, c'est pas le cas.
Au demeurant,
il faut en être conscient, c'est tout. Donc c'est pour ça. C'est très bien qu'il y ait des financements mixtes. Mais le financement public est très très important. Et il faut absolument le défendre. Qu'on soit de gauche ou de droite.
Au demeurant, quand vous prenez l'exemple de la Maison Rouge, voilà, moi j'ai envie de dire, c'est son droit le plus strict en tant que collectionneur de dire, bah voilà, j'ai envie de faire autre chose, de partir, et c'est mon lieu, je le ferme, point barre. Je pense que certaines institutions, je suis profondément amoureux de l'institution, mais je pense que certaines institutions arrivées à bout de souffle devraient aussi, pas le cas du Louvre, etc., mais devraient aussi apprendre à dire à un moment donné, bah voilà, on arrête. Pour laisser le champ libre aux herbes fraîches qui poussent. Sur les dispositifs que vous venez d'indiquer, évidemment, c'est bien. Je me demande quand même si ça n'est pas pour une part, le cache-sexe d'un désengagement précisément des pouvoirs publics. C'est-à-dire que la tendance lourde, c'est quand même la privatisation, enfin ce que je dénonce dans le livre, d'une certaine manière, la privatisation de l'espace public de la culture. On voit de plus en plus, et ça ne concerne pas que la culture, ça concerne maintenant même l'action sociale. C'est-à-dire qu'on parle même d'un marché de la misère. C'est-à-dire que tout ce qui passe par des délégations de services publics, la ville de Paris, par exemple, est très friande de ça. Un lieu comme la Gaîté Lyrique a été confié à... C'est une concession, une délégation de services publics. C'est un lieu dont la réfection a été payée par nos impôts de contribuables parisiens, dont la gestion est confiée à des sociétés privées. Et ça se répand de plus en plus. On a vu, encore récemment, des festivals qui étaient gérés par des associations. Les collectivités territoriales ont demandé à ce que ça soit mis, à ce que ça fasse la vie d'un, comment on appelle ça, la vie d'appel d'offres. C'est-à-dire, la culture devient un marché. Et donc, ça, dans certains cas, pourquoi pas, mais il me semble qu'on a été pas assez vigilants ces dernières années. Je voulais juste ajouter très rapidement une petite chose par rapport à ce qui a été dit avant. Parce que bon, là, j'imagine que Radio Campus a des auditeurs et auditrices essentiellement jeunes. J'ai essayé.
Beaucoup d'auditeurs, voilà, surtout.
Donc, il y a des choses qui s'oublient très vite. Une histoire récente qui se dilapide très vite. Moi, j'essaie de, pour moi-même, mais aussi pour les lecteurs plus jeunes, d'essayer de retracer dans le livre une archéologie récente, les 30-40 dernières années, de politique culturelle. Il y a ce paradoxe qui est qu'apparemment, et pas qu'apparemment, on a aujourd'hui beaucoup plus d'événements culturels sur tout le territoire qu'il n'y avait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on pouvait encore parler du désert culturel français dans la province, etc.
Il y a
partout, aujourd'hui. Partout. Mais donc, c'est ce que, par ailleurs, Bernard Noël, qui est un poète que j'admire, qui a 84 ans, mais qui parle de censure par saturation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où donner de la tête et ça produit finalement un effet de censure. Mais donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et tout le réseau, par exemple, des scènes nationales, des choses comme ça, je voudrais juste rappeler très rapidement que dans les années, ce mouvement-là vient d'un tissu associatif qui s'appelait dans les années 70-80, soit MJC pour une part, soit Centre d'Action Culturelle, qui était animé par des militants associatifs de l'action culturelle. Et aujourd'hui, c'est devenu, voilà, une affaire. Et c'est vrai qu'on demande que tous ces lieux fassent de l'action culturelle. Moi, j'ai travaillé dans quelques-uns, je peux vous dire que parfois les dossiers sont entièrement bidonnés, personne ne va vérifier le nombre d'heures qui ont été effectivement faites. Il n'empêche que les subventions sont calculées uniquement, presque uniquement, sur la jauge, c'est-à-dire le nombre de spectateurs et de spectateurs payants. C'est-à-dire, si vous faites des événements gratuits dans l'espace public, ça ne compte pas. Donc ça aussi, c'est une privatisation de la culture.
Down.
C'était Peter Peter Lovingham. Il sera en concert le 28 février au Café de la Danse.
Win the yes means no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Again the no.
Les auditeurs qui écoutent La Relève le savent, Loving Game, c'était un titre forcément que j'ai choisi pour Abline, dont c'est l'heure de venir chroniquer, de nous parler de numérique.
Oui, la culture avec un grand C, comme dans Camembert, ce fer de lance de la place de la France dans le monde, c'est-à-dire son soft power, résiste-t-il à l'arrivée des GAFA ? Nous, Français, nous bénéficions de l'exception culturelle française, ces mécanismes de défense qui sont apparus dès la création du ministère de la Culture avec Malraux en 1959. En matière de cinéma, de télévision et de théâtre, nous avons mis en place des systèmes de protection et de financement depuis fort longtemps. Mais qu'en reste-t-il à l'heure où, pour créer le moindre site internet, vous louez et non achetez votre nom de domaine à un organisme dont vous ne savez rien mais qui est américain et qui s'appelle Lican ? Avant toute chose, il faut poser un fait. La culture, ce n'est pas simplement ces gens un peu bohèmes qu'on appelle des artistes. Non, la culture, c'est 7% du PIB en France, soit deux fois les télécoms et sept fois l'automobile. La culture, c'est donc une industrie créative. Cela correspond à 670 000 emplois en France. C'est une industrie à forte valeur ajoutée, comprenant le jeu vidéo, la mode, l'écriture, la télévision, etc.
Et alors, comment expliquez-vous qu'un secteur aussi important économiquement intéresse aussi peu les politiques ?
Alors, actuellement, qui parle de culture parle en général pour la relier à l'identité. Mais finalement, on pourrait s'interroger comment ce fleuron de l'industrie française est présenté lors de la présidentielle. Rappelons-nous qu'à la dernière présidentielle, les débats s'étaient cristallisés autour de la loi Hadopi, faisant du piratage l'ennemi intérieur à abattre. 5 ans plus tard, Hadopi est toujours là et le débat sur, par exemple, les licences globales n'existe pas. Pourtant, il y a urgence à renouveler nos modèles de financement. On prend le streaming, par exemple, chez Deezer, seuls 6,5% des artistes qui sont signés par une major et 0,6% des indés peuvent vivre de leur musique. Chez Spotify, c'est encore plus bas, c'est 2% pour les signés, 0,3% pour les indés. Quant à YouTube, c'est 1 milliard d'utilisateurs et seulement 0,07% des musiciens qui arrivent à en vivre. Autre exemple, chez Amazon, on paye les auteurs à la page lue. Pas au livre, hein, mais à la page lue. Rappelons que, par exemple, le fisc français réclame 1,6 milliard d'euros d'impôts à Google. Ça semble cher, mais quand on sait qu'en 2015, seulement, il a réalisé 248 millions d'euros de CA pour 12,2 millions de profits, c'est pas énorme comme imposition. Facebook, Apple passent aussi entre les mails de Bercy. Seul Amazon s'est engagé à payer ses impôts en France au prorata de ses revenus réels. Si tous les candidats veulent taxer les GAFA, peu savent comment le faire, ni même pourquoi, jonglant depuis toujours entre le besoin des startups d'une fiscalité adaptée à leur croissance et l'économie de la culture, fort mise à mal par ces géants dont la capitalisation boursière, 555 milliards pour Alphabet, soit le PIB de l'Argentine, dépasse le budget culturel européen, alors que leur richesse provient justement du partage de la consommation culturelle.
Alors face à ces enjeux, où en sont nos hommes politiques ?
Alors, chez Emmanuel Macron, pas de programme, comme on le sait tous. On pose juste des idées et on propose d'offrir à tous les jeunes de 18 ans un pass culturel de 500 euros ouais. Financé par l'État. Ouais, on est content.
Bah, je suis jeune, moi.
Ça s'est pas vu. Comment on va faire payer ces derniers ? Eh ben, là encore, personne ne sait. Puis après le chantre de l'ubérisation de la société, voyons ce que propose l'homme aux hologrammes, Jean-Luc Mélenchon, qui lui propose la protection des données personnelles, le soutien à la création des jeux vidéo, la suppression de la loi Hadopi, la réforme du droit d'auteur, la défense de la neutralité d'Internet, la promotion du logiciel libre, la lutte lui aussi contre l'optimisation fiscale pratiquée par les géants du web. Et notons que c'est le programme le plus approuvé par les associations de défense des droits sur le net. Du côté de Benoît Hamon, on a l'idée de taxer les robots qui a été de façon surprenante approuvée par Bill Gates. C'est suspect. Mais il se contente de vouloir sanctuariser à 1% du PIB le budget de la culture, ce qui est déjà fait. Quand on sait que la seule fois où ce fut fait, ce fut sous un gouvernement de droite et qu'en plus 90% du budget va au patrimoine et non à la culture vivante, cela fait léger le programme. Et évidemment, pas un mot sur le numérique. Sans surprise, le programme de François Fillon qui...
L'homme qui a inventé Internet.
J'allais le dire. Ah, rappelons-le, ouais. A inventé Internet. Pointe vers la France de toujours, la France d'avant,
c'était
la France du patrimoine.
C'était un emploi fictif, pardon. Mais c'était peut-être un emploi fictif.
C'est Pénélope qui a branché la prise. Ouais. Maintenir la loi sur le prix unique du livre, qu'au passage personne n'avait jamais menacé. Lutter contre les abus du statut intermittent du spectacle. Renforcer la Hadopi. Augmenter l'amplitude d'ouverture des établissements culturels. Et développer l'offre d'activités artistiques à l'école. Quant à Marine Le Pen, elle a tellement mal compris l'exception culturelle qu'elle veut l'étendre à tout. avec son patriotisme culturel et propose donc de réformer le CSA, de maintenir le régime des intermittents tout en limitant son accès, de promouvoir les libertés sur Internet ou encore de défendre le droit d'auteur à Bruxelles sans pour autant donner de détails concrets sur la manière dont on compte y parvenir, comme à peu près tous en vérité.
Alors, du côté des associations, du monde de la culture, comment on réagit ? Est-ce qu'on a des propositions qui viennent de la société civile ?
Alors, l'association qui est le plus en pointe là-dessus, c'est la Quadrature du Net. Et eux proposent, entre autres, la reconnaissance du partage en droit et en fait, avec notamment l'abandon des DRM, la création d'une contribution créative pour rémunérer les artistes, c'est la fameuse licence globale, la facilitation de nouveaux modèles de financement par un assouplissement du droit d'auteur et, à contrario, la sanctuarisation du domaine public, mais assortie d'une revue à la baisse de la durée des droits d'auteur et droits voisins. Bref, ils insistent surtout sur une culture partagée et ouverte, utilisant le collaboratif comme levier. Et c'est donc là, lors d'une présidentielle, que l'on s'aperçoit du poids médiatique de la culture et de l'inculture des politiques sur cette industrie. Tous les candidats cherchent à se faire une écurie d'artistes pour que peut-être on se mette à voter comme Gérard Depardieu ou Jules. Mais... Jules. Mais ne nous leurrons pas, que ce soit la culture pour tous ou pour chacun, ce que l'on sait des évolutions du web qui vont vers de plus en plus des plateformes en silo, c'est que le consommateur semble bien le seul à travailler par le biais de ses données et que seuls les GAFA semblent y gagner. Et la culture reste aussi ainsi ce qu'elle a toujours été, un marché qui se cache sous des idées.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Comment vous...
Allez-y Jean-Marc.
Non, parce que bravo pour votre chronique, mais tout ça c'est pipeau. C'est-à-dire que le problème il n'est pas là. Enfin, et c'est vrai que quand vous égrenez les non-programmes des candidats à l'élection présidentielle, c'est pathétique. Parce que... on a l'impression que c'est un catalogue La Redoute. Alors il peut y avoir parfois des trucs qui plaisent plus ou moins bien, etc. Mais enfin, ils sont tous complètement à côté de la plaque.
C'est ce qu'elle a dit.
C'est ce que j'ai dit.
Oui, absolument. Mais parce que la question, elle est... effectivement, aujourd'hui, on a ces géants, américains pour la plupart, qui ignorent complètement le droit d'auteur, qui... c'est le système Uber généralisé. L'autre problème, c'est... Comment l'Europe, qui a une autre tradition, peut faire face à ça ? Donc, sans essayer de se calquer sur les mêmes modèles, en essayant de les adapter, de mettre des taxes ici ou là, etc. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Au lieu de vouloir l'idée d'un passe culture, c'est ridicule. C'est pas en aidant la consommation qu'on va résoudre quoi que ce soit. Ce qui va être décisif, c'est d'aider les producteurs. Mais ça, dans tous les domaines de l'économie. Dans l'agriculture, vous savez, qui était jusqu'à il y a peu la principale bénéficiaire des aides de l'Europe en matière agricole ?
La reine d'Angleterre.
Exactement. Donc,
j'ai toujours gagné la question pour un champion.
Bon, en matière de presse, la revue que je dirigeais, Mouvement, a été mise en liquidation judiciaire. Il nous aurait valu 40 000 euros d'aide de l'État, du ministère de la Culture, pour qu'on puisse garder 5 emplois. On ne les a jamais eus. Pendant ce temps-là, vous savez combien l'État verse chaque année de subventions publiques aux 5 principaux hebdomadaires télé qui n'ont pas besoin, 23 millions d'euros. C'est-à-dire, de l'argent, il y en a. Donc, c'est qui sont les producteurs qu'on choisit de privilégier, etc. Et ça, ça devrait être l'objet d'un débat réellement politique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit ? Qu'est-ce que la société accepte de produire ? C'est pour ça que, pardon, je termine d'un mot, parce que c'est une expression que vous avez utilisée au début, et je trouve qu'elle est extrêmement dangereuse, c'est celle d'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est une formule qui a servi en 1995 au moment des négociations du
GATT. Pardon, mais c'est un principe de droit, l'exception culturelle,
non.
Dans le droit européen, en fait.
Oui, mais
c'est ce qui nous permet à nous, Français, d'avoir des règles différentes des autres pays et de protéger notre culture. C'est ça qu'une expression.
Je ne dis pas le contraire. Simplement, c'est une expression langagière qui s'est imposée en 1995, dont Gérard Kralit a été notamment le principal vecteur, au moment des négociations du GATT, pour savoir ce qui échappait au libre marché. Et Gérard Kralit et d'autres ont dit... La culture n'est pas une marchandise comme les autres. Donc il y a une exception culturelle. Donc ça, c'était légitime. Sauf que maintenant, ce qu'on entend, c'est qu'il y a que la culture... On entend derrière nous que la culture est exceptionnelle. Et moi, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, elle soit partagée, que la question... Et c'est comme ça que la culture reviendra, pardon, dans le débat politique, c'est que ça redevienne une question partagée par tout un chacun. C'est pour ça que moi, dans la campagne...
Il faut qu'on avance. Mais Cocampo, vous travaillez, vous, dans un centre culturel numérique, et j'aurais voulu savoir, vous, quel était votre regard, justement sur les arts numériques et sur le poids des GAFA. Je suis désolé, il faut que je fasse un peu avancer le débat.
Bon, alors, il y a une vraie différence entre les arts dits numériques et l'Internet que vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà, pour moi, je ne les mets pas au même endroit. Aussi, il y a un problème d'exploitation. Enfin, outre le fait qu'il faut défendre les producteurs, effectivement, ça me semble essentiel, les producteurs et les artistes producteurs. Mais voilà, l'exploitation. Et puis aussi, qu'est-ce que ça génère comme recette, en fait, la redistribution, quoi. Voilà, dans mon secteur, on ne travaille pas... Enfin, bien sûr qu'on travaille pour gagner de l'argent, mais pas pour... créer de l'argent, on va dire. Internet, c'est devenu, malheureusement, la consommation sur Internet de la culture, c'est devenu un lieu pour créer de l'argent. Ce qui n'est pas... Voilà, on n'a pas les mêmes objectifs, disons.
En même temps, par exemple...
Donc je ne peux pas placer le numérique au même endroit quand on parle d'Internet et quand on parle d'art numérique, par exemple.
Ça, je suis assez d'accord avec vous, mais...
Après, l'art numérique, ça n'a pas une seule esthétique, ça a plein d'esthétiques. Ça peut aussi voilà, se développer dans plein de types de disciplines, que ce soit musical, art plastique, vidéo, chorégraphie, théâtre.
Vous, par exemple ?
Alors oui, moi je travaille avec un programmeur, développeur, ça s'appelle en anglais Interaction Designer, qui me permet de... Donc lui, il doit créer un programme, effectivement, qui est une sorte de partition, pour l'instant, c'est un créateur, qui va pouvoir mettre en lien plusieurs choses... Voilà, j'ai fait une pièce qui s'appelle PH avec le compositeur Pierre-Henri, dans laquelle les danseurs agissent sur de la lumière ou sur de la vidéo par leur mouvement. Voilà, donc il y a un système de capteurs ou avec un système de tracking, etc. Donc, mais ça, ce sont des outils, mais lui, il est là pour penser comment est-ce qu'on peut créer une sorte d'organicité qui permet de mettre en lien le corps avec ces choses super technologiques, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez ? J'ai lu pendant que je préparais l'émission une étude qui expliquait que les nouvelles technologies, Internet, donnaient les moyens à quasiment tout le monde d'être lui-même artiste et de créer
voilà, sur son ordinateur. Ça réduit les barrières à l'entrée.
Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça crée des nouveaux langages, hein, ça crée des nouvelles manières de ça peut comment dire, réaliser des visions qu'on n'aurait pas eues quand on travaillait. Voilà, avec la bougie.
Chacun est artiste.
Et un souffleur dans la trappe.
Alors moi, je voudrais réagir sur les arts numériques. Je trouve très intéressant ce qu'a dit Mia. Et moi, j'adorerais, pour revenir à la chronique, qu'un candidat, puisqu'ils font tous des visites un peu dans des lieux comme ça, qu'un candidat aille à l'IRCAM. On parle d'exception culturelle, excusez-moi de parler de ma chapelle. Mais en musique contemporaine, en France, on a un bijou qui s'appelle l'IRCAM. On a énormément de...
Vous pouvez juste rappeler ce que c'est, pardon.
Alors l'IRCAM, c'est un institut de recherche. J'espère que je ne vais pas me tromper j'en ai tellement l'habitude.
C'est à côté de Beaubourg, c'est là juste où à côté on fait de l'expérimentation Beaubourg, musique contemporaine.
C'est une association, d'ailleurs. C'est un institut. Ouais. On fait de l'expérimentation en musique contemporaine,
en création,
en électroacoustique,
en design
sonore.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites sur le design sonore, mais qui sont tout de suite expérimentées par des artistes. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche, vraiment de la vraie recherche sur le son, qui est tout de suite expérimentée par des artistes.
Le fondateur de l'IRCAM, c'est Pierre Boulez, qui est un immense compositeur, complètement. Contemporain et chef d'orchestre aussi, à la fois dans la musique acoustique, qui a écrit des pièces acoustiques et qui est un super chef d'orchestre, donc, comme je le disais, mais qui a aussi toujours eu un regard très orienté vers les nouvelles technologies.
Sûr,
à l'époque, c'était la Revox, c'est Pierre Boulez.
Mais c'est ça, mais justement, je pense que le génie de Pierre Boulez, ça a été justement de lier l'art, la création, avec la recherche.
Mais aussi...
Et ce qui est très important, et alors juste, je voudrais finir là-dessus, parce qu'on parlait d'autres choses, donc il y a vraiment une excellence et une exception là-dessus, mais dans cette excellence, et excusez-moi d'employer un mot qui fâche, c'est des prolétaires qui travaillent. Et des vrais, parce que les artistes aujourd'hui souffrent beaucoup. Et n'ont absolument rien. Je vous vois lever les bras, mais je pense que c'est un sujet très très important de savoir comment mangent les artistes aujourd'hui.
C'était, puisqu'on parlait de prolétaires, Karpov, notre Kasparov, qui chantait, et on reste toujours dans le numérique, Mechanical Turk, une image de ce que nous sommes tous face aux géants du numérique. Mais il est bon, ce programmeur. Et la virgule est partie trop vite.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Oui, donc français, nous avait été coupé par la musique. Vous nous parlez de la situation des artistes. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez
à dire ? Je remarque que c'est la deuxième fois que j'ai été coupé par la musique pour parler de la situation des musiciens.
Allez-y.
C'est beau. Non, moi, ce que je remarque, alors, je vais parler d'un domaine qui n'intéresse personne et c'est un petit peu le drame, qui est donc la musique contemporaine. Moi, chaque fois que je parle de musique contemporaine, je me dis mais de qui tu parles ? Alors, on connaît un peu Pierre Boulez, mais après, le grand public ne connaît pas trop. Mais là, on se retrouve dans une situation où la création musicale savante, entre guillemets, en France, et j'exagère à peine, peut disparaître parce qu'on a des compositeurs qui sont complètement voués à eux-mêmes. On n'a plus d'éditeurs, des commandes qui sont de plus en plus rikiki, une espèce de concurrence féroce où on demande à des gens d'écrire un opéra en étant payé. Je sais que je vais faire hurler la plupart des commanditaires qui peuvent être derrière ce poste, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les compositeurs sont obligés, avec leur commande, qui est là normalement pour créer, de payer leur édition musicale. Ce qui était avant le rôle de l'éditeur.
D'ailleurs, ils se retournent sur des éditeurs en open source, quoi.
Exactement.
Ils ne cherchent même plus à être protégés par l'édition.
Avec des contrats où il faudrait une émission pour en parler.
Et la commande d'État, le plafond, je crois que c'est 14 000 euros. Donc pour un opéra, 14 000 euros.
Oui.
Un opéra, c'est au moins 3-4 ans d'écriture. C'est vraiment ridicule.
Mais pour 14 000
euros qui passent dans l'édition du matériel.
Le problème alors, ou la solution, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas assez de subventions ?
Non.
Alors déjà, moi, je pense que la solution, ça serait que ces auteurs-là puissent avoir accès à un statut qui soit peut-être un peu celui de... Enfin, qui puisse devenir déjà leur propre employeur. Je veux pas que... l'idée, c'est pas qu'ils deviennent auto-entrepreneurs. L'idée, c'est pas de faire ça du tout, mais qu'il puisse y avoir déjà une protection sociale pour ces gens-là. Je pense que c'est très, très important. Et qu'il y ait vraiment une prise de conscience des programmateurs, des gens qui jouent ces pièces sur cette difficulté-là, et qu'on autorise, que les commandes soient déjà réévaluées en tenant compte vraiment de cette paupérisation. Excusez-moi, c'est un petit peu technique pour les quelques minutes qui me restent.
Moi, je suis un peu choquée parce que en fait, la protection sociale, elle existe à partir d'un certain montant annuel. Voilà, c'est les offres de 8 000. C'est ça, je crois, 8 000 euros par an. De droits d'auteur, on peut bénéficier de la sécurité sociale.
À partir de 8 000 euros de droits d'auteur par an, mais moi je connais beaucoup de compositeurs qui n'ont pas 8 000 euros de droits d'auteur par an.
Mais
dans les jeunes, il y en a énormément.
Après, il y a beaucoup de compositeurs qui sont aussi interprètes ou qui ont aussi d'autres travails.
Mais pardon, parce que là, on est en train de se
très
perdre
peu.
Dans un débat
oui,
un peu
vrai.
Technique et
oui,
intéressant.
Oui, mais
moi, je viens vous dire
la musique
en deux minutes,
est moins à peindre que la danse, hein, si je puis me permettre.
Oui. Moi, je viens vous dire en deux minutes quelle est la...
Non, mais moi, excusez-moi, j'ai parlé vraiment d'un domaine que je connais.
Bah oui,
et la danse, c'est certain, mais je pense qu'il y a vraiment des domaines qui sont vraiment en voie de disparition.
Je viens vous dire en deux minutes quelle est la solution. Elle est archi simple. Parce que c'est vrai ce que vous disiez, l'IRCAM, ce qui est produit à l'IRCAM aujourd'hui, par les créations recherche, mais c'est aussi, il y a des applications industrielles. L'IRCAM, toute proportion gardée, c'est le TGV. Et on a, voilà. Donc ce que je veux dire à partir de là, c'est pourquoi, pour revenir à la question du début, pourquoi la culture est depuis aussi longtemps absente du débat politique ? Parce que les élites aujourd'hui, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, médiatiques, ne sont plus cultivées, ne s'intéressent plus à la culture. Et les hommes et les femmes politiques, très majoritairement, considèrent aujourd'hui la culture comme une dépense. Si on considère que la culture est une richesse intellectuelle, sensible et économique, on inverse totalement les valeurs. Et c'est en ce sens, vous allez dire que je suis de parti pris, mais que pour moi, la principale proposition culturelle que j'ai entendue de toute la campagne électorale, c'est celle d'un revenu universel d'existence et pas d'un revenu d'assistance. Ça, c'est une vraie proposition culturelle.
Mais je suis entièrement d'accord.
Ah, je croyais qu'on avait un générique de fin, mais on n'en a pas.
J'ai juste
donc
envie de dire que même si on peut penser que la culture est un marché, l'art ne doit pas être mercantile.
Ah, je savais bien qu'il y avait un générique de fin quand même. Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant c'est l'instant César, celui où je dois dire merci à tout le monde et qui est celui que je préfère. Alors merci à nos trois invités d'être venus ce soir en studio. Merci à Nino d'avoir préparé et animé le débat. Merci à nos deux chroniqueuses, Aline et Constance. Merci à Elsa et Christophe.
À Clémence.
Pendant toute la soirée, je me serais trompé. Merci à Elsa et Christophe pour l'indispensable soutien. Merci enfin à Paul-Henri, réalisateur hors pair de ce direct sans filet. Merci enfin à vous tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de Place Publique. Il est bientôt 21h sur Radio Campus. Vous allez retrouver La Souterraine présentée par Laurent Bajon. Avec ce soir un groupe extraordinaire, on parle encore de culture et on l'écoute, c'est Les Requins Chagrins.